calme que devait l'être le monde au temps primitif. Car dans ces déserts, l'homme n'a point osé encore troubler la nature. Et l'on n'y rencontrait que quelques chevaux, libres, qui paissaient à demi cachés dans les herbes marécageuses. Sans pourtant les voir, Andreas avait la certitude de sentir leur poursuivant derrière eux, ses sens aiguisés par cet instinct étonnant qui permet à une proie de savoir qu'on la traque. Malheureusement, il ignorait à quel point cette conviction était légitime. Car quand Robin et lui entrèrent dans la ville de Bayonne par le long pont Pankow qui enjambait la Dour, le grand inquisiteur de France était si près d'eux qu'il put même les observer. Chapitre 98. Bayonne est une cité émancipée, fort dévouée au roi d'Angleterre. Elle possède sa propre charte communale. L'ordonnance royale n'a ici que très peu de valeur, sinon aucune. Et s'il est un endroit en France où ma fonction est particulièrement malvenue, c'est bien dans cette région d'hérétiques, expliqua Guillaume Imbert aux deux geôliers qui l'accompagnaient. Les Gascons sont des chiens, fiers et arrogants. Aussi nous allons devoir intervenir dans la plus grande discrétion. Sortir Saint-Loup de là pour aller le soumettre à la question et le juger en un lieu saint où cette fois nous serons bien accueillis et protégés. Changeons d'habit et faisons en sorte de ne point nous faire reconnaître. Ainsi tous trois traversèrent le pont Pankow et entrèrent dans la ville par le nord, vêtus comme de simples marchands, quelques instants à peine après Andreas et Robin. Bien que leurs intentions s'opposassent grandement, il fait peu de doute que l'éblouissement des gens de Guillaume Imbert fut aussi grand que celui d'Andreas et Robin en pénétrant dans la cité, car elle était l'une des plus belles de tout le territoire. Perchée sur une petite colline au confluent de la Dour et de la Nive au pied des Pyrénées, c'était une petite place forte, ceinte de murailles très épaisses, qui s'élevait au-delà des marécages que les fleuves y avaient engendrés. Une demi-lieue à peine séparait la ville de l'océan. Mais il fallait un temps bien long aux nombreux navires pour remonter la Dour jusqu'au port que la tutelle anglaise avait permis de développer. Il y en avait néanmoins un grand nombre, et qui venaient de tout pays, toute voile dehors. La Nive, quant à elle, traversait la ville de part en part pour se jeter dans les eaux de sa sœur aînée. Ces rivières, d'ailleurs, n'apportaient pas seulement à Bayonne ses innombrables bateaux, mais aussi moult poissons. Et on y prenait notamment de très beaux saumons. Alors qu'au large, en pleine mer, il n'était pas rare qu'on prît une baleine, une fois l'an peut-être, source de belles richesses. Car une partie du monstre se vendait fraîche, et on assure que c'est une viande excellente. Et une autre se salait pour être exportée, alors que de la tête on pouvait extraire plusieurs tonnes d'huile et que la langue, enfin, s'arrachait à prix d'or, puisqu'on en faisait, dit-on, un mets des plus exquis. Bien que l'inquisiteur eût évoqué l'arrogance et la dureté des Gascons, les trois étrangers ne purent que constater en entrant dans la ville combien les gens d'ici étaient gais et chaleureux, semblaient ne songer qu'à rire, danser et s'amuser. Et aux portes de la ville même, on voyait des terrains disposés en forme de carré, clôturés, dont le sol recouvert de sable était si bien nivelé qu'on eût su y signaler la moindre inégalité, et où les hommes de Bayonne venaient jouer à la balle, aux quilles et à moult autres jeux encore. On entendait ici plus qu'ailleurs encore la musique de la langue gasconne qui se parlait de ce côté-là de la France. Remontant lentement sur la rive ouest de la Nive les rues ensoleillées où s'alignaient les maisons aux toits ocres, ils longèrent le château qui n'était pas des plus grands mais s'enorgueillissait d'un beau donjon hexagonal et arrivèrent bientôt au cœur même de la cité, tout plein de peuple et de bruit. C'était la place de la cathédrale, qui, ravagée par un incendie 3 ans plus tôt, profitait alors de toute la ferveur des bons bourgeois et de l'église, lancée de concert dans sa reconstruction, laquelle était l'occasion d'un admirable embellissement. Bien que la nef et les deux clochers ne fussent point encore achevés, les pèlerins de Saint-Jacques venaient là par milliers pour se recueillir devant la châsse de Saint-Léon et déambuler pieusement le long des 7 chapelles à pans coupés qui entouraient le chevet. Sur le parvis et dans les ruelles alentour, les commerçants le disputaient aux troubadours, aux artisans, aux enfants, aux voyageurs, pour faire le plus grand bruit. C'était comme si toute la ville avait décidé de se retrouver là chaque jour